trois petits accords de guitare et on de noir revient pour quelques coups de cœur, quelques bons romans à se mettre sous la dent. Jacques, je te laisse la parole.
Eh ben, en fait, dans le polar dont je vais vous parler, il va être beaucoup question de physique nucléaire, de physique quantique.
C'est quand même Essaye d'être simple quand
c'est
même.
C'est quand même assez rare, oui, c'est simple quand même. On va croiser Fermi, Niels Bohr, Heisenberg, Langevin et même De Broglie. Ça s'écrit De Broglie. Donc la crème des physiciens du début du XXe siècle. Et on va aussi croiser Ettore Majorana.
Et beaucoup moins connu quand
même.
Beaucoup
moins connu. Et pourtant, c'est un physicien célèbre. Certains disent du niveau d'Einstein. Donc le roman, en fait, j'ai oublié de préciser, le roman s'appelle Le neutrino de Majorana, donc du nom du savant italien. L'auteur s'appelle Niels Barellon et il est publié chez Gigal Polar. Donc le roman commence en fait au moment où Ettore Majorana arrive au monde en 1906 à Catane, en Sicile. Majorana va devenir très vite un physicien, élève de Enrico Fermi à Naples, et c'est le personnage principal de presque la moitié du roman. Pourquoi une moitié seulement? Eh bien parce que l'autre moitié se déroule de nos jours, et la première partie était un peu historique donc, se déroule de nos jours. Et en fait, de Majorana, plus personne ne l'a revu depuis 1938. Alors, certains disent qu'il s'est suicidé, mais en fait, il n'y a pas vraiment de thèse officielle, elle varie beaucoup. Donc, la partie historique va raconter la vie de Ettore, ses études brillantes, ses rencontres avec les plus grands physiciens du début du siècle, je les ai cités tout à l'heure, sa découverte de l'amour avec une jeune étudiante, et sa découverte non moins intéressante des secrets de l'atome et des particules qui le composent, dont le fameux neutrino qui donne le titre au roman. Comme il est romancier, Niels Barellon va donner dans ce roman sa version de ce qui est arrivé à Majorana après 1938, que personne ne sait, sauf peut-être lui s'il n'est pas encore mort. Dans la partie contemporaine, donc, qui est en alternance, presque un chapitre sur deux, il va y avoir une enquête sur le meurtre d'une chercheuse au CERN de Genève. C'est évidemment, ça rejoint.
Centre d'études de recherche nucléaire.
Voilà. Centre européen de recherche nucléaire, je crois bien. Donc, on va découvrir, enfin, des flics vont découvrir un cadavre exactement sur la frontière entre la France et la Suisse, puisque le CERN est entre les deux, enfin, est sur les deux. Ce qui va donner une enquête conjointe. Ou plutôt, en fait, une double investigation. Côté français, deux gendarmes. Alors, des gendarmes, très gendarmes. Pas vraiment Cruchot, mais une version 2019, quoi, avec des téléphones portables. Le lieutenant Bourdier et l'adjudant Nome. Ils roulent en Kangoo. Et pour les Suisses, c'est l'inspecteur Zellweger qui, lui, a une Audi Q2.
Il s'appelle pas René?
Non, il s'appelle Marc. Alors vous allez me dire, les bagnons, elles s'en foutent, certes, mais l'auteur, lui, non. Et puis ça a une importance, en fait, un petit peu dans le roman, donc c'est pour ça que je le précise. Alors, dans la partie contemporaine, on va rester dans la physique des particules, puisque grâce à Niels Barellon, on va pénétrer au cœur du CERN, puisque les flics vont interroger tous les collègues de la chercheuse qui est morte, qui sont, pour la plupart, des chercheurs aussi. Les trois flics, malgré leur antipathie réciproques réussiront à trouver évidemment le ou les assassins. Et vous en doutez, chers auditeurs d'Onde Noire, que le mobile aura un rapport plus que certain avec le physicien italien Majorana. Alors Niels Barellon réussit vraiment à nous passionner pour la physique nucléaire et pour l'organisation interne du CERN, ainsi que pour la vie des chercheurs qui, je trouve, a priori, dans ce roman, n'est pas trop caricatural comme on peut l'avoir dans certains feuilletons télé. Il nous donne même des explications scientifiques de façon très accessible qui nous permettent de suivre l'enquête. Bon, certes, d'un autre côté, les flics du roman sont un petit peu bourrins, ce qui nous donne un avantage par rapport à eux, on comprend même avant. L'intrigue est très très bien ficelée, accrocheuse. On peut trouver que certains indices arrivent un peu facilement, mais bon, en même temps, avec des physiciens, c'est pas forcément étonnant. Et l'action est bien menée, on se laisse vraiment prendre. C'est donc un polar plutôt réussi, ça frile suffisamment, disons, pour maintenir notre attention, on apprend pas mal de choses, ou alors on révise nos vieux cours de physique pour ceux qui ont été jusque-là. On regrettera cependant que les flics soient vraiment un peu caricaturaux par moment, presque TF1. L'autre bémol, c'est que l'auteur a porté beaucoup plus d'attention au style dans l'écriture de la partie historique. On sent qu'il a vraiment aimé le Majorana, donc il en parle super bien. Et c'est très bien, dans la forme comme dans le fond, c'est très très bien fait. Dans la partie récente, c'est un petit peu moins réussi, mais malgré tout, je viens de le dire, on ne s'ennuie pas à la lecture de ce roman, même s'il manque un petit peu de peps, de brio. Et si vous jamais vous intéressez à Majorana, je vous conseille d'aller chercher sur YouTube la vidéo d'Étienne Klein qui parle de ce savant et puis des particules de spin arbitraires qui pourraient fournir...
Retenez cette expression, voilà. Les particules de spin arbitraires.
Ben,
ça vous servira dans la conversation.
J'ai lu tout un article qui l'expliquait.
À Noël.
Voilà, et en fait, ça permet de fournir une explication au trou noir. Ou pas.
Surtout qu'on vient d'en trouver un gigantesque, voilà. Apparemment.
Alors donc, Niels Barellon, le neutrino de Majorana chez Gigal.
Niels Barellon étant le nom de l'écrivain. Eh bien, moi, on va changer, mais alors radicalement d'ambiance, vraiment. Je vais vous emmener au milieu d'un paysage qu'on pourrait croire idyllique. Les vagues, l'océan, le sable, les silhouettes de bateaux qui croisent au loin. En gros, une galaxie composée de trois planètes qui s'est installée dans un endroit... un peu sauvage, un peu nature. Vous voilà dans l'ambiance du dernier roman de Pascal Dessin, qui est récemment paru aux éditions Rivage. Le titre du roman, L'horizon qui nous manque.
Très beau titre, vous dire.
Oui, très beau titre. Et c'est un titre ô combien symbolique pour ces trois destins dont nous allons partager une fin d'été et un début d'automne. Le premier personnage, Anatole, d'abord, dans son mobile home, il est chasseur. Il fabrique de drôles d'oiseaux qui ont de drôles de têtes pour attirer les autres, les vrais, qu'il veut avoir au bout du fusil, mais qui ne tuent pas beaucoup. Anatole et son grand cœur, Anatole et son caractère de cochon. Et dans son bout de jardin, on va dire, il a accueilli Lucille, qui elle est une institutrice, c'est pas si facile que ça à dire, déboussolée.
Elle dort dans le jardin ?
Elle a elle aussi sa cabane, on va dire. Elle avait choisi d'aider les migrants dans ce qui fut la jungle de Calais. Jungle de Calais démantelée, la jungle déconstruite par contre, détruite aussi, Lucille. Comme elle s'interroge à un moment donné, étions-nous destinés au chagrin ? Et puis, la troisième planète de la galaxie, c'est Loïc. Déconstruit lui aussi, démantelé même, on pourrait le dire. On pressent rapidement un passé de petits malfrats, de séjours en prison, un amoncellement de manque de chance, de malentendus. Je cite l'auteur, un des symptômes d'une société malade de désœuvrement. En ce moment, là, quand il rencontre Lucille et Anatole, il bosse à l'usine d'à côté, à la concasseuse. Et c'est tout un symbole, cette concasseuse, qui concasse aussi bien des bouts de parpaing ou des bouts de rochers que des vies humaines. On a donc trois points d'appui comme un espèce de trépied, trois solitudes. Et est-ce que ça peut construire un avenir ? Loïc et Lucille, Anatole et Loïc, Loïc et Anatole. Ça pourrait se faire. Et on voit apparaître des petits moments de bonheur, des moments de grâce qui s'insinuent dans leur vie de paumée. Un pique-nique, un décortiquage de crevettes grises. Anatole dit à Lucille ce qui serait bien avant de mourir, ça serait d'être heureux, un peu. Tu ne crois pas ? Mais il y a les autres. Et cette trinité a bien du mal à supporter les coups de boutoir du destin, un horizon bouché pour des marginaux comme eux. Alors l'esprit dérape, la violence s'impose, on chute un peu, puis de plus en plus. Je répète, étions-nous destinés au chagrin ? S'interrogeait Lucille. Oui, lui répond l'auteur, sans dévoiler en rien l'histoire que nous raconte si bien celui-ci. C'est un roman sur ce que certains appellent les petites gens, ceux qui sont de si petits boulons qu'on peut les utiliser, les oublier, les perdre, les casser, les concasser. Lucille, Anatole, Loïc. Mais il y a aussi d'autres personnages, comme la maman d'Anatole, la décortiqueuse de crevettes. Elle décortiquait je ne sais plus combien de crevettes grises à l'heure ou à la minute. Se pointent d'autres personnages, un flic, plutôt sympa, un vigile, pas désagréable, qui pointe le bout de leur nez. mais ils ne pourront pas grand-chose à tout ça. Un roman où la nature n'est jamais loin, où les oiseaux font encore partie de l'environnement, où l'on peut encore dormir dans un phare abandonné. C'est aussi un roman sous le regard et la voix de Jean Gabin, tout un symbole. Lui qui joua, cet acteur qui joua dans les films de Renoir ou de Duvivier, au titre d'ailleurs en écho à ce roman. Je rappelle un des films qui s'appelait Les Bas-fonds, La bête humaine, La mariée du porc. Alors, autre titre de roman, Quand le jour se lève, c'est un film de Marcel Carnet, évidemment interprété par Jean Gabin, Quand le jour se lève à l'horizon.
Même incarné par Jean Gabin.
Peut-être, oui. Donc, Quand le jour se lève à l'horizon, près des dunes, l'avenir a le goût de cendre et de sang. S'il existe cet avenir. C'est un roman noir qui laisse constamment passer beaucoup, beaucoup de tendresse, ce qui en atténue parfois la noirceur et parfois l'accentue. Être près des humains, ça, Pascal Dessin, il sait parfaitement le faire. Donc, L'horizon qui nous manque, aux éditions Paillot Rivage, dans la collection Rivage Noir, roman, comme je l'ai dit,
de Pascal Dessin.
Pascal Dessin. Un petit peu de musique.
Un petit peu de musique. On va écouter une vieille chanson country and western d'un certain Hank Snow. La chanson s'appelle I Don't Hurt Anymore. Pourquoi on écoute ce titre ? Eh bien, je vous le dirai après. Après la musique, même au début de la chronique. Pour les fans, sachez que Johnny Cash a aussi interprété ce tube. I Don't Hurt Anymore, Hank Snow. Et voilà, donc c'était Hank Snow. Donc pourquoi Hank Snow ? Eh bien parce qu'il va intervenir dans le roman dont je vais parler maintenant, qui s'appelle Le canard siffleur mexicain. C'est un roman de James Crumley, paru chez Gallmeister, et traduit par Jacques Mayos.
Avec une super couverture, si tu le dis.
Avec une super couverture. C'est le quatrième Crumley retraduit chez Gallmeister. Ce canard siffleur mexicain est la deuxième enquête du détective privé C.W. Sugru. On l'avait découvert dans Le Dernier Baiser avec un équipite des plus remarquables. Quand j'ai finalement attrapé Abraham Traherrn, il était en train de boire des bières avec un bulldog alcoolique nommé Fireball Roberts dans une taverne mal en point, juste à la sortie de Sonoma. Voilà, ça c'était pour nous mettre dans l'ambiance.
C'est tout le début du Dernier Baiser, chef-d'œuvre absolu.
Voilà, le début de celui-ci n'est pas mal non plus, puisque Sugru, qui travaille dans un bar en fait qui est à lui, traîne le jukebox de ce bar sur la voie de chemin de fer quelques instants avant l'arrivée en gare de Merriweather du 3h12 pour Spokane. Et pourquoi fait-il cela ? Eh bien parce qu'ils ont osé enlever du fameux jukebox les chansons de Hank Snow dont on vient entendre, particulièrement la chanson « I Don't Hurt Anymore » qu'on vient d'entendre. Donc je me suis dit que c'était une bonne raison de l'écouter. Vous allez me dire, ça ne suffit pas pour faire un roman, certes. Mais rassurez-vous, vous ne manquerez pas de péripéties dans les 370 pages qui suivent. Évidemment, le choc de la locomotive contre le jukebox va être jouissif pour les protagonistes, assez sonore pour les autres, mais pas très bien pris par les autorités qui vont vouloir le faire payer à Sugru. Celui-ci va donc se réfugier chez son avocat, avec qui il était d'ailleurs, lequel avocat est un toxico et un ancien du Vietnam, tout comme Sugru. Deuxième étape de Barjo dans ce polar, un peu après, l'avocat va demander, moyennant finance bien sûr, à Sugru d'aller récupérer chez Norman, qui est un chef d'un gang biker, des poissons rouges, tropicaux, qu'il n'a pas réglés. lequel Norman, une fois l'affaire des poissons réglée, de la façon que vous verrez, Norman va donc engager Sougrou pour retrouver sa mère. Donc pas la mère de Sougrou, mais la mère de Norman.
Oui, on comprend mieux comme ça.
Laquelle a été kidnappée par son mari. Vous pensez que j'en raconte trop, mais en fait, on n'est qu'au début, là. Et donc voilà ce brave détective qui s'en va du Montana pour le Nouveau-Mexique. Nouvelle étape dans un road trip halluciné. Et quand je dis halluciné, ce n'est pas un vain mot, vu la quantité faramineuse de drogue et de toutes sortes d'alcool qui sont consommés. Je vous lis un extrait, juste rapide, pour vous donner une idée. Il me fallut deux longues taffes du pétard de Jamaïcaine pour respirer sans hyperventiler. Puis le speed me calma comme un enfant hyperactif. Une ligne de cocaïne me permit d'y voir clair. Trois bières brûlèrent un peu de mon adrénaline. Et la demi-douzaine de cigarettes du paquet que j'avais acheté sur le chemin du retour comblèrent ma pulsion de mort.
À consommer avec modération.
D'ailleurs, aucun dans ce roman ne consomme avec modération. Cependant, ce roman, certes complètement barré, n'est ni un hymne aux drogues, ni une histoire de paumé, violent et un brin barjot, si un petit peu quand même. Il y a beaucoup plus derrière. En fait, on imagine assez Peckinpah, s'il était toujours vivant, faire une adaptation de ce roman qui raconte aussi un bout de l'Amérique avec les armes à profusion et d'accès relativement facile. Il y aura même un tank Sherman dans ce roman, ce qui est quand même, faut bien le dire.
Il y a déjà un jukebox sur une
voie ferrée. Bon, les tanks Sherman, on n'en voit quand même pas tous les jours. Là, on va croiser des suprémacistes blancs.
Et oui, il y a beaucoup aux États-Unis, de toute façon.
Le roman date de 93 en VO. La guerre du Vietnam était donc encore bien présente dans les esprits et chez les vétérans laissés à l'abandon par le gouvernement. Sougrou aura maille à partir avec des migrants mexicains, légaux ou pas. Et la force de Crumley, c'est la poésie dans son écriture, même pour les scènes d'une rare violence. Son amour pour les femmes, les barmaids et les putes. Les putes sur le retour, ou pas d'ailleurs, ou les vieilles dames. Il y a une vieille dame toujours en colère, il y en a souvent dans ses romans, et ça, elles font du bien, ces vieilles dames. Les personnages, eux aussi, sont bancals. Fort d'apparence, genre tough guy, et faible derrière la façade sévèrement burnée. Sugru, particulièrement, avec son empathie pour les gens, quitte à se foutre dans la mer une fois de plus. Pour finir, je voudrais juste finir sur le bonus de cette édition, ce sont les illustrations de Rabaté.
Illustrations
de Rabaté, les vignettes à chaque chapitre et une dizaine de pleines pages où Rabaté fond son style dans celui de Crumley. Regardez chez votre libraire celle de l'accident, le train, le jukebox, page 29, ou celle du motel Edgar Hopper, mais à la façon Rabaté, page 199. Quant au canard siffleur mexicain, il faudra lire le livre pour savoir ce que c'est. Mais il a une importance non négligeable dans le roman.
Voilà, donc on vous a conseillé plein de bonnes lectures et de bons titres à offrir. Donc on va vous dire chacun dans un coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.
Bonsoir et à bientôt.